Bonjour et bienvenue sur Influence Cyber, le podcast des enjeux du numérique pour le grand public et les entreprises françaises. Comme vous le savez, dans ce podcast, nous examinons comment le droit et le processus législatif contribuent à la protection des droits fondamentaux et à l'innovation technologique. L'agenda du régulateur, qu'il soit français ou européen, est d'ailleurs particulièrement chargé. DSA, DMA, Data Act, Data Governance Act et bien sûr, projet de règlement sur l'intelligence artificielle. Le droit européen du numérique est une locomotive avec de nombreux wagons. Pourquoi en est-on arrivé à cette profusion législative? Dans un monde numérique par essence global, ces initiatives sont-elles suffisantes pour échapper à l'hégémonie des big tech états-uniennes? Comment préserver le modèle européen sur des marchés en plein essor? Aujourd'hui, je reçois Madame la sénatrice Catherine Morin-Desailly pour analyser la relation entre les initiatives nationales et ces textes européens dans un contexte où le numérique est plus que jamais un terrain d'affrontement mondial, où les big tech ont créé des dépendances de plus en plus inacceptables au regard des valeurs du modèle français et européen. Catherine, tu es sénatrice élue de la Seine-Maritime. Parmi tes nombreux engagements figurent ceux de vice-présidente de la Commission des affaires européennes, membre de la Commission spéciale sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, et aussi tu es membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Bonjour Catherine, merci de m'accueillir pour cet entretien alors que tu es en pleine négociation du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. On voit bien donc que ces enjeux du numérique provoquent une prolifération des textes sur la table des législateurs en France et en Europe. Peux-tu nous rappeler quels sont les facteurs qui ont provoqué cet agenda législatif ?
Ce qui est inédit ces derniers temps, c'est que enfin l'Europe s'est réveillée. Il a fallu en fait la crise sanitaire et le recours massif à la dématérialisation, lors du confinement, le recours quotidien à son ordinateur, à sa tablette, pour continuer à se distraire, à travailler, à communiquer, pour réaliser à quel point nous étions dépendants du numérique et surtout nous étions dans des dépendances dangereuses puisque l'écosystème numérique fonctionne, comme on le sait, grâce ou à travers des acteurs extra-européens. Donc on s'est rendu compte de ça et l'abus aussi cumulatif hein, de différents facteurs, l'abus de position dominante des big tech très peu nombreux sur le marché mais préemptant toute la valeur ajoutée de ce qui circule sur Internet, le fait que ces big tech ne paient pas d'impôts, donc ne contribuent pas aux efforts de politique publique sur le territoire européen, le fait aussi qu'on ait assisté à des phénomènes nouveaux et assez dangereux d'harcèlement sur Internet, de propos diffamatoires, de haine en ligne, de désinformation, de manipulation des opinions, voire des démocraties, tous ces effets cumulatifs ont conduit l'Europe enfin à réagir et à se dire qu'il faut que nous nous dotions d'une politique en faveur de notre souveraineté numérique.
Ces différentes initiatives législatives nous permettront-elles de reprendre en main notre destin numérique en vue de développer une souveraineté dans ce domaine en lien avec le DMA et le DSA ?
La Commission européenne a proposé une série de textes qui sont ni plus ni moins la rouverture des grands dossiers législatifs, en tout cas des directives votées il y a pratiquement 20 ans, plus de 20 ans maintenant, et qui sont censées réguler la société numérique, le marché européen du numérique. Et je veux parler de la directive e-commerce votée au début des années 2000, qui s'est décliné dans l'ensemble des États membres, dont en France par la LCEN, la loi pour la confiance en l'économie numérique. Nous sommes, jusqu'à une période récente, puisque le DSA et le DMA s'appliquent tout juste, encore sous cette législation qui, en fait, ne confère aucune responsabilité, aucune redevabilité aux plateformes qui gouvernent notre écosystème. Donc, la Commission européenne a enfin réagi, constaté les abus que j'ai cités, et a proposé deux textes, le DMA, qui va réguler le marché numérique, c'est-à-dire la vie de nos entreprises, recréer des conditions loyales de concurrence entre ces big tech et les entreprises du numérique, mais pas seulement, toutes les entreprises qui dépendent du numérique pour se développer, d'une part, et puis d'autre part, le DSA, ou le règlement des services numériques en ligne, qui est censé apporter une forme de régulation à tous les débordements, à tous les abus que l'on peut constater, voire les dérèglements sur la toile et sur les réseaux sociaux.
Le droit européen du numérique est un train qui compte de plus en plus de wagons. Quel est le lien avec justement le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique qui est discuté en ce moment ?
Cet arsenal est complété par deux autres textes, il faut le souligner. Cette fois, deux autres textes qui ne sont pas encore votés, qui sont en dialogue, on le dit, ou dans le trilogue, c'est-à-dire qui sont encore en discussion à Bruxelles entre les différentes instances. Il s'agit du Data Governance Act, qui va compléter le règlement général sur la protection des données, combler les trous morts, en fait, prendre acte aussi que les données, c'est un actif stratégique majeur, et proposer une meilleure protection des données des particuliers, des entreprises ou des administrations. Et puis, il y a aussi l'IA Act, donc la législation sur l'intelligence artificielle qui est assez novatrice, puisque nous sommes le premier continent au monde à légiférer. Donc, ces textes ne sont pas encore définitivement votés. Et ces textes sont aussi assortis d'un texte qui se veut visionnaire, d'abord qui énonce les principes et les droits à l'ère du numérique. Donc c'est plutôt des déclarations de bonne intention, dire que tout ce nouveau monde repose sur nos droits fondamentaux, la Charte des droits fondamentaux européens. Et puis, bien sûr, un plan Europe 2030, pardonnez-moi ce lapsus, qui s'appelle Boussole numérique et qui est censé énoncer des grands axes de développement, notamment industriel, et des développements en matière de formation. Donc c'est un véritable arsenal qui nous est proposé. Pour une fois, je m'en réjouis pour avoir plaidé depuis plus de 15 ans pour une politique globale offensive de régulation du numérique assortie d'une politique industrielle. Donc voyons ce que ces textes vont donner. Ce sont des textes de règlement, donc à la différence des directives, ils s'appliquent directement dans les États membres. Il y a juste quelques mesures d'application. C'est ce qu'on retrouve dans le texte évoqué, Nathalie, qui est le texte sécuriser et réguler le cyberespace, l'espace numérique, qui est en cours de débat aujourd'hui au Parlement, en France, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et qui comporte des dispositions d'application des règlements que j'ai évoqués, DSA, DMA, et en plus des volets qui ont été ajoutés par le gouvernement français, notamment pour traiter les questions d'atteinte aux plus jeunes, la question de la pornographie en ligne, la question des outrages en ligne, tous les dysfonctionnements en ligne que l'on peut constater, qui se veulent renforcer dans la législation française. Et bien sûr, des dispositions aussi concernant les jeux numériques en ligne, ça s'appelle les jeux NUM.
Comment les initiatives législatives en France ou dans les États membres et dans l'Union européenne s'articulent-elles ? Par exemple, le Sénat est doté de certaines prérogatives sur ce plan.
S'agissant des textes que nous votons en France, ce sont parfois des textes d'initiative. Quand par exemple, on dépose des propositions de loi portant sur la majorité numérique, une proposition de loi portant sur les influenceurs. C'est ce qui s'est passé ces derniers temps au Parlement. On espère que ces textes, on va les prendre en compte au niveau européen, que ça va faire bouger la législation européenne. Parfois, il faut procéder ainsi. Il faut que les États membres démontrent qu'il y a certains problèmes et que les parlements des États membres, respectant d'ailleurs le principe de subsidiarité, fassent remonter un certain nombre de problématiques et de propositions. Alors, on a cette méthode-là, qui est la proposition de loi, le texte que l'on vote, mais on a aussi ce qu'on appelle les propositions de résolution européenne ou les avis politiques que l'on peut adresser à Bruxelles. Une proposition de règlement, une proposition de résolution européenne, comme j'en ai déposé beaucoup sur une, il y a très quelques années, visant à réguler de manière offensive l'écosystème numérique, si elles sont votées par le Parlement en France, par le Sénat et ou l'Assemblée nationale, elles deviennent résolutions, outils pour le gouvernement à faire valoir à Bruxelles. Donc on a intérêt à beaucoup travailler les textes européens aussi dans nos chambres, dans les États membres, parce que nous sommes participants du débat. Nous sommes, nous, dans le concret, nous sommes dans la proximité des Européens et nous savons de quoi nous parlons. Souvent, Bruxelles semble très éloignée, très pris dans des problématiques compliquées, administratives, des choses qui ont du mal à bouger, on a du mal à se faire entendre. Là, on est dans du concret, des propositions concrètes, on est des aiguillons pour la loi. Un autre exemple qui s'inscrit parfaitement dans la politique en faveur d'une régulation numérique, c'est la question des droits d'auteur et droits voisins. Les droits voisins instaurés par la France, hein, qui a aiguillonné encore une fois l'Europe, j'en veux pour preuve que l'Europe aussitôt a pondu une directive reprenant pratiquement dans les mêmes termes la proposition de loi française, a permis de créer pour toutes nos rédactions, tous nos journaux, nos médias, des droits d'auteur en réalité. Vous savez, jusqu'à une période récente, nos grands hebdomadaires, nos grands quotidiens voyaient leurs articles, leurs numéros, être proposés en ligne sans que leur soit versé par les plateformes qui, par le biais de la publicité, captaient un certain nombre de recettes, sans que ces mêmes rédactions, en fait, ne se voient verser des droits d'auteur. Donc, c'était parfaitement injuste. Donc, on a réussi à faire bouger ces lignes-là. On a réussi à faire plier les plateformes. Donc, c'est très important, voilà, de voir comment on articule une politique nationale et une politique européenne. C'est ça aussi l'Europe. C'est un lien entre les différents parlements.
L'intervention d'un régulateur est très souvent critiquée comme étant un frein à l'innovation. Pourtant, dans ce monde numérique global, on peut se demander si ces différents volets seront suffisants, ou alors s'il y a d'autres champs à couvrir pour échapper à l'hégémonie des big tech.
C'est bien simple, l'Internet, après des débuts prometteur où prévalait une forme de naïveté et de confiance aveugle dans un nouveau monde qui allait émerger, un monde du partage de la connaissance, libre, ouvert. À cet Internet-là de ses débuts, ce mythe de l'Internet s'est substitué à un Internet plus réel qui a démontré qu'il était devenu ni plus ni moins le nouveau terrain d'affrontement mondial pour la domination du monde, hein, par l'économie et la connaissance, par l'information, ou son corollaire d'ailleurs qu'est la désinformation. Donc les Américains ne se sont pas trompés, hein, quand dès le début de l'Internet ils ont créé le programme avec Bill Clinton des autoroutes de l'information, c'était bien pour être dans la nouvelle frontière et d'anticiper et de construire le nouveau leadership scientifique et technologique dans son domaine. Donc forcément les Américains qui ont une vision, on construit une politique publique, il faut bien dire les mots, dans ce domaine. Il n'y a pas une technologie qui n'ait pas été nouvelle, qui n'ait pas été financée par l'État fédéral, ce qui n'est pas du tout le cas en France et en Europe. Pendant ce temps-là, bien que l'Internet soit né quelque part de ce côté aussi de l'Atlantique, chez nous, avec Louis Pouzin, on ne s'est pas préoccupé de la manière dont l'écosystème, par la suite, ce qui avait été prévu, hein, en fait, et créé au bénéfice de nos armées, comme un appareil militaire, un outil militaire, puisse toucher la société civile et les développements de toute notre économie. Si bien qu'on ne s'est pas préoccupé de cela, et bon an, mal an, on a vu que au fur et à mesure que se développaient les usages, nous étions très moteurs en Europe, d'ailleurs dans le plan Europe 2020, on définit ce qu'est une politique des nouveaux usages, mais on ne définit pas ce qu'est une politique industrielle en la matière, ce qu'est une politique de construction de l'écosystème qui va permettre les nouveaux usages. On ne se préoccupe pas des infrastructures. On se préoccupe du déploiement de la fibre, on se préoccupe des infrastructures qui permettent le raccordement, qui permettent de s'inscrire en ligne, mais on ne crée pas des infrastructures, un écosystème permettant d'encadrer les usages. Alors, ne parlons même pas d'une régulation, hein, parce qu'à l'époque, dans une forme d'ébriété technologique qui agitait les uns et les autres, il n'était pas question de réguler ce que l'on voyait comme étant l'innovation, et surtout pas, il fallait surtout pas brider l'innovation. D'ailleurs, en ce moment, je vois des parallèles entre un discours qui est de dire faut surtout pas réguler l'intelligence artificielle parce qu'on va brider l'innovation, c'est pas ce que l'innovation nous réserve. Je vois vraiment un parallèle avec cette époque où du coup on n'a pas voulu réguler. Et on n'a pas voulu réguler, donc on a donné une hégémonie à ceux qui avaient été les pionniers et qui avaient, au fur et à mesure de leur développement, parce qu'ils captaient aussi tous les marchés, on a laissé la primeur à ces big tech s'enrichir, se déployer sur l'ensemble du spectre. Et je crains que ils se reproduisent la même chose, sinon on n'a pas une politique industrielle plus offensive.
Comment alors imposer un modèle européen du numérique sur certains marchés qui sont en développement, en tout cas sur lesquels l'Union européenne devrait se positionner au niveau de cet espace régional ?
Entre les deux, je pense que l'Europe peut et doit proposer une troisième voie qui est celle reposant sur nos valeurs fondamentales issues du siècle des Lumières, qui est le respect de la condition humaine, de la dignité de l'homme, qui respecte nos droits et nos libertés. C'est possible si nous sommes dotés à la fois d'une régulation exigeante, juste, équilibrée, et d'une politique industrielle qui nous rend aussi, d'une certaine manière, autonome, peut-être pas complètement autonome, mais autonome quand même. Je rappelle que le marché européen, c'est un marché profond et durable de 500 millions de consommateurs, potentiellement d'internautes, et que forcément, on se bat, hein, les extra-européens se battent pour pouvoir en capter une grande partie. Par exemple, le marché de l'informatique en nuage est extrêmement prometteur. On a montré le besoin d'informatique en nuage au moment de la crise sanitaire et du confinement généralisé. C'est un marché en plein développement. Il faut songer au-delà des grands Américains qui ont préempté d'ores et déjà, par leur stratégie, une part de ce marché. Il faut se dire qu'il faut booster l'entreprise européenne du cloud. Nous avons des talents, nous avons des consortiums qui peuvent s'organiser et capter une partie progressivement de ce marché. Pour autant aussi qu'on dispose d'une politique assez volontariste, qui est une politique de commande publique, comme les Américains, les Russes et les Chinois ont su se doter. C'est comme ça que leurs entreprises ont grandi. C'est-à-dire que les administrations, ça a commencé par les marchés publics, leur ont confié le traitement de leurs données. Et ben, faisons de même, surtout sur le segment des données sensibles et extrêmement stratégiques. Bien entendu, tout ne peut pas se faire en un jour, mais il faut avoir cet objectif à terme pour pouvoir savoir où on va. À défaut de quoi, encore une fois, pour chaque innovation, on va créer de nouvelles hégémonies à notre détriment et au profit de ceux qui ne payent pas en plus d'impôts sur le sol européen.
Ces dépendances sont de plus en plus inacceptables. Elles sapent le développement industriel en Europe. Et c'est en réalité d'une véritable stratégie d'intelligence économique propre au numérique dont la France aurait besoin. Quels seraient, à ton avis, les axes d'expansion de notre modèle législatif concernant le numérique ?
Parallèlement à ça, il faut être offensif et il faut avoir une stratégie d'export de nos entreprises et les accompagner à l'export, à l'international, faire une promotion de ce que j'appelle la francophonie numérique. Nous avons aussi des marchés. Prenons le marché de la francophonie. Il y a 86 pays au monde qui appartiennent à la francophonie. Ces pays, ça repose sur la langue française, mais la francophonie, ce n'est pas que la langue. Ce sont aussi des valeurs que nous avons en partage, des valeurs de démocratie, d'humanisme. Dans certains pays, quand on discute entre parlementaires, on voit bien qu'ils sont très tournés vers la France. La France, dans le monde, est une référence. Si elle légifère ou elle fait légiférer au niveau européen, on regarde ça de près. C'est Francis Hogan, la lanceur d'alerte, ancien ingénieur de Facebook, qui nous avait dit au Parlement, à la fois à Paris et à Bruxelles, que notre RGPD était un étalon d'or pour le reste du monde, eh bien, elle disait que le DSA, le DMA, pouvait être de nouveaux étalons d'or, c'est-à-dire des points de référence pour légiférer. On sera copié par la suite.
La conflictualité dans le cyberespace se traduit notamment par des cyberattaques qui sont connues du grand public. Qu'en est-il de la guerre de l'information ? L'Union européenne s'est-elle positionnée sur ce point ?
L'Internet, c'est le nouveau terrain d'affrontement mondial. Il ne se passe pas une journée sans que le réseau des réseaux se voit l'objet de cyberattaques. On le voit quotidiennement, ce sont nos infrastructures aussi vitales qui sont attaquées, ce sont les internautes qui sont rançonnés. On voit que c'est un sujet de grande vulnérabilité. Et donc, l'enjeu, c'est quand même bien la domination. On l'a vu aussi au moment des débuts de la guerre en Ukraine. Donc il y a aussi, au-delà des attaques physiques, la guerre de l'information ou de la désinformation. Et l'intelligence artificielle et ses développements fait craindre un développement très important d'une forme de désinformation qui, aux mains de certains dictateurs ou de certaines personnes peu scrupuleuses, ont des velléités de dominer le monde, on voit le danger que cela peut représenter, car il y a dans l'écosystème aussi des failles qui peuvent permettre justement des développements tout à fait funestes pour l'avenir de nos sociétés. On l'a vu dans les manipulations des scrutins électoraux, la tentative de déstabiliser nos démocraties européennes. Hein. C'est pas un mystère de dire que les Russes ont indirectement, avec la complicité de Facebook et de Cambridge Analytica, manipulé les élections américaines de 2016. Mais on l'a vu plus tard dans l'histoire du Brexit. On l'a vu aussi lors des élections européennes. Donc tout ça nécessite que l'on ait une régulation et qu'on s'organise, qu'il y ait de l'éducation, qu'il y ait la montée en compétences numériques de tous pour comprendre le monde dans lequel on vit et comment on se prémunit, comment on s'organise, comment on se forme, comment on régule aussi l'écosystème.
Penses-tu qu'il y ait vraiment une prise de conscience des États en dehors de l'Union européenne des enjeux du numérique, notamment son impact dans le processus démocratique ?
Il y a, faut bien le penser, que dans le monde, au-delà de l'Europe, et encore en Europe, tout le monde n'est pas aligné. Il y a des ultra-atlantistes qui ne jurent que par les GAFAM. Donc c'est pour ça que c'est difficile aussi parfois de tomber d'accord sur des textes, parce que il y a une Europe qui est très en faveur du travail en faveur de la souveraineté, qui a conscience des enjeux, une Europe plus libérale, on va dire. Et donc c'est pas toujours facile. Mais dans le monde, il y a d'autres pays. Je pense au Canada qui réfléchit aussi. Et on a eu des exemples en allant rendre visite à nos amis à Montréal et à Ottawa. Il y a des pays qui réfléchissent à ces sujets. Pourquoi ? Parce que, par exemple, au lendemain de l'affaire Cambridge Analytica, au lendemain du Brexit, nombre de politiques se sont posé la question du rôle qu'avaient joué les réseaux sociaux dans l'influence à faire voter dans un sens ou dans l'autre. Et il est évident qu'à cette époque, je pense que le Brexit, beaucoup ne nous voulaient pas de bien. Cherchaient tout simplement à ce que l'Europe puisse s'affaiblir. Personne n'a intérêt, beaucoup, hein, plutôt intérêt à ce que l'Europe ne soit pas forte dans le monde. Et donc, manipuler les scrutins électoraux en faveur, par exemple, des extrêmes, c'est une façon d'affaiblir l'Europe. Et donc beaucoup de pays au monde se sont rendus compte du risque très important qu'il y avait à manipuler les opinions, à construire des contre-vérités, des bulles informationnelles, et que ça, c'était pas acceptable, que d'ailleurs les big tech, je pense à Facebook par exemple, jouent un rôle là-dedans. Le risque demain, si on ne régule pas de manière offensive, encore une fois, si on ne pose pas des lignes rouges, c'est, et si nous dépendons exclusivement de ces big tech, qui ont des modèles de société qui leur est propre, c'est que ce monde soit dominé par une élite technologique qui effectue nos choix de société, que ce ne soient plus les politiques, puisque ces grands mastodontes sont plus forts aujourd'hui par leur PIB que les États-nations. Donc il y a un enjeu politique très très fort, très très fort, qu'on a fini par mesurer, mais il aura fallu quand même du temps.
Merci infiniment Catherine pour cet éclairage sur le rôle du législateur dans la construction d'une souveraineté numérique en Europe, et à bientôt à tous sur Influence Cyber.